France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libiot.
Alors c'est bien gentil, Ali, hein, de se poser la question de savoir s'il faut cultiver sa bonne humeur, mais on peut aussi se demander pourquoi il faudrait cultiver sa bonne humeur. Personnellement, je cultive mon humeur de râleur, et oui, bien râler me va bien au teint. En ce moment, par exemple, je suis un râleur d'été et je m'agace d'en avoir perdu une ce week-end. Perdre une heure, c'est un sommeil perturbé et chacun sait, Ali, qu'une mauvaise nuit, nuit. Ouais. Dans 6 mois, je serai râleur d'hiver, comme divers râleurs que je connais. On gagnera alors 1 heure de sommeil en plus ou 1 heure d'éveil en plus, c'est selon, et je trouverai bien une raison pour râler, car le râleur attend tranquillement son heure. Comme disait l'autre, rien ne sert de courir, il faut râler à point. Il faut râler à point, d'ailleurs, oui. Si on veut bien faire voilà. La liaison. On sait bien ce changement d'heure à l'heure de plaire uniquement à ceux qui nous gouvernent, alors que nous sommes nombreux à râler contre ce changement d'heure, mais ne plus changer d'heure me ferait autant râler, puisque dans ce cas-là, je n'aurais plus raison de râler. Voilà ce qu'il y a de formidable avec le râlage, c'est qu'il est toujours possible, et c'est d'autant plus formidable que le râlage ne s'arrange pas avec l'âge. Alors pourquoi râler, Ali ? Eh bien parce que râler, c'est se tenir éveillé, c'est ne rien accepter comme agent content, mais tout accepter comme argent mécontent. Alors je suis aussi un râleur de pointe, surtout dans les transports en commun. Trop de gens, pas assez de métro ou de bus, et je le vérifie tous les jours, car le bon râleur est proche du quotidien. Le bon râleur ne se permet pas de donner son avis sur des sujets qu'il ne connaît pas. Le râlage n'a rien à voir avec l'ultra-crépi-darianisme, qui est un comportement consistant à donner son avis sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Ce râleur-là n'est pas digne d'en être, parce qu'en être, c'est du boulot, et il faut savoir remettre les pendules au râleur. Le bon râleur est un râleur local, il faut savoir de quoi on parle pour savoir de quoi on râle, c'est important. Il y a trop de râleurs qui se la jouent à râler n'importe où, car râler dans la bonne direction, c'est pas si facile. Et il ne faudrait pas confondre râler et comploter. Comploter, c'est penser que rien n'est vrai, alors que râler, c'est penser que tout peut s'améliorer. D'ailleurs, dans comploter, il y a con, alors que dans râler, non. Râler, c'est imaginer qu'une humanité meilleure est possible. Il faut râler à son échelle. Et si chacun râle à son échelle, on peut râler plus haut. Il ne faut pas non plus opposer râlage et mauvaise humeur. La personne de mauvaise humeur se regarde le nombril, se révèle égotique et risque l'ulcère. Or, il faut savoir que l'ulcère a rien et qu'on peut l'éviter, justement, en râlant. D'autant qu'il est possible de râler de bonne humeur. Non seulement il est possible de râler de bonne humeur, mais râler met de bonne humeur, pardon. Je propose donc qu'on change un peu les paroles de la Marseillaise, devenue la Rouscaillaise, qui pourrait débuter par « Râlons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ».
Frédéric Schifter, vous reconnaissez dans ce portrait de râleur ?
Mais bien sûr, enfin, il a râlé, encore une fois. Il y a des choses qui nous font râler, d'autres non. Ce qui me fait râler, moi, laisse l'autre indifférent. Mais on voit bien que nous ne sommes pas maîtres du tout de nos émotions. Et puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à propos de l'homme est un animal malade, je veux dire que, regardez même l'objet de notre émission, de votre émission, elle montre bien que la bonne humeur pose problème. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Est-ce qu'on peut la maîtriser, etc. On voit bien qu'il y a un problème, en tout cas, avec les humains et leurs émotions. Donc, je pense que toute sagesse qui vise, et ça, je vise aussi bien les philosophes de l'Antiquité, hein, toute sagesse qui vise à vouloir faire en sorte que l'humain ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire un être ballotté par ses émotions, c'est une sorte de... Je dirais une sorte de charlatanerie, si vous voulez. Voilà. C'est
Michel Echanino, vous êtes d'accord ?
Allez, au mieux, c'est une utopie. C'est une utopie.
Pas du tout. non, c'est-à-dire que je pense que l'humeur, évidemment, elle se crée pas, elle se malaxe pas, on la sculpte pas. Mais on peut peut-être l'attraper au vol. Et là, la philosophie peut quand même un petit peu aider. Moi, c'est très personnel, mais dans les transports, eh ben, le stoïcisme, ça m'aide un peu. Je me dis, bon, tout le monde est énervé, les gens se parlent pas, tout le monde fait la gueule. Je me dis, bon, ça ne dépend pas de moi, comme Épictète, hein, ça ne dépend pas de moi. Donc je n'ai pas à en être affecté. Bah, je suis désolé, mais moi, ça m'aide un peu, parfois. Alors, un tout petit peu, dans les transports, hein, pas dans toute la vie. Mais je crois que la philosophie peut un peu aider, non pas à devenir un saint, un ange, qui de toute façon n'existe pas, mais à devenir quelqu'un qui est quand même cette espèce de créativité, de la bonne humeur. Parce que la bonne humeur, je suis d'accord que la mélancolie peut faire des grandes œuvres, mais la bonne humeur, pas du tout la bonne humeur béate et l'optimisme forcé que décrit Frédéric, mais une sorte d'énergie créatrice dont parle Nietzsche, qui peut, à mon avis, transpirer sur les autres et sur ce qu'on fait.
Toutes les chroniques d'Éric Libiot sont à retrouver sur l'appli Radio France.